France Inter. 10.
Jeudi 4 avril, bonjour à tous, bienvenue sur Inter. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, les polluants éternels dans le viseur des députés.
Proposition de loi écologiste pour restreindre leur utilisation et leur vente, alors que dans la vallée de la Chimie, près de Lyon, on s'inquiète de la pollution de l'eau. Reportage dès le début du journal. Coup de fil inédit à ce niveau depuis 18 mois. Les ministres français et russes de la Défense se sont parlé hier soir. Nous serons à Moscou. L'inauguration aujourd'hui du centre aquatique des JO et des fauteuils en plastique recyclé, on vous explique. Et puis le PSG qualifié pour la finale de la Coupe de France.
Invité rendez-vous d'Inter ce matin à 7h15. Ne manquez pas le Zoom avec aujourd'hui des témoignages rares de déserteurs russes. 7h50, bonjour Sonia De Villers.
Bonjour à tous, énorme star à 7h50, les rois de la musique électro française. Ce qu'on a présenté comme la relève des Daft Punk, ça fait 8 ans que les fans attendent un nouvel album. Et bah il arrive. Il s'appelle Hyperdrama, le duo Justice, en direct sur France Inter à 7h50.
A tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'ancien président de la République, François Hollande. Il publie un livre jeunesse intitulé « Leur Europe » chez Glénat. 9h20, Léa Salamé reçoit Benoît Magimel.
France Inter.
Ils font partie de la vie moderne depuis les années 40. Les PFAS, ces molécules chimiques fabriquées par l'homme, qu'on retrouve des poils anti-adhésifs aux textiles imperméables, des peintures aux emballages alimentaires, en passant par les médicaments et les cosmétiques. Sauf qu'une fois dans la nature, ils ne se désagrègent pas, des polluants éternels donc, et pour certains très nocifs pour la santé. Les députés débattent aujourd'hui d'une proposition de loi écologiste qui vise à réduire l'exposition aux PFAS. Elle demande de limiter la fabrication et la vente des produits qui en contiennent. Autre mesure, le contrôle obligatoire de leur présence dans l'eau potable et l'application du principe de pollueur-payeur. Proposition scrutée de près dans la vallée de la Chimie au sud de Lyon, l'une des zones de France les plus polluées au PFAS. Reportage Mathilde Imberti.
À Saint-Symphorien-d'Ozon, chez Fabien Charton, il y a le grand jardin, le poulailler, le potager, un cadre préservé avec un point noir, la contamination de l'eau.
C'est vrai que depuis qu'on a appris que l'eau était polluée au PFAS, on est très inquiet de la qualité de notre environnement.
La famille a donc installé un filtre sous le robinet de la pièce centrale.
C'est composé de deux filtres à charbon, une membrane à osmose inverse qui permet de traiter les PFAS. On a fait analyser l'eau du robinet avant et après filtre. Effectivement, on passe de 180 nanogrammes à 0 nanogramme.
Cette eau du robinet, elle provient
d'un champ de captage qui est à Ternay, dans le Rhône, en aval de la vallée de la Chimie et du port Édouard Herriot.
Selon l'Agence régionale de santé, en Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 160 000 habitants sont alimentés par une eau contaminée au PFAS. 120 000 dans la seule métropole de Lyon, qui a récemment intenté un recours contre les industriels Arkema et Daikin. La vice-présidente chargée de ces questions, Anne Gros-Perrin.
Depuis qu'on a appris cette pollution, au printemps 2022, on s'est mis en travail pour essayer de trouver des solutions techniques. C'est vraiment des gros travaux qui sont estimés à 6 millions d'euros aujourd'hui. En fait, l'impunité aujourd'hui n'est plus une option. Il faut absolument qu'on arrive à démontrer la responsabilité et faire prendre en charge ces pollutions majeures.
Métropole qui soutient bien sûr la proposition de loi étudiée ce jour à l'Assemblée nationale et tout ce qui pourra aller vers plus de transparence. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Le gouvernement lui aussi présente son plan d'action aujourd'hui avec une meilleure mesure des PFAS dans l'eau, l'air et le sol. Pour le reste, il préfère renvoyer les interdictions à l'échelle européenne. Bien trop tard pour le député écologiste qui dénonce aussi le lobbying des industriels et le chantage à l'emploi. L'eau, ressource que l'on a souvent considérée comme illimitée, mais avec le changement climatique, elle se fait plus rare pendant les sécheresses estivales. La métropole de Toulouse a donc décidé d'appliquer une tarification saisonnière. L'eau y sera plus chère en été. Le texte est examiné aujourd'hui. Dès le 1er juin, Toulouse pourrait donc être la première grande métropole française à basculer dans ce nouveau type de tarification, Alexandra Lagarde.
Ça veut dire qu'entre début juin et fin octobre, pendant la période d'étiage où l'eau peut manquer dans la Garonne, le prix augmenterait de 42%. Puis le reste de l'année rebaisserait de 30%. L'adjoint au maire de Toulouse, Pierre Trottmann, l'assure, tout a été calculé pour que les factures annuelles n'augmentent pas.
Ça s'équilibre puisqu'il y a moins 30% pendant 7 mois, plus 42% pendant les 5 mois d'été, et au total, l'équilibre est à zéro.
Faux, rétorque l'opposition écologiste qui est contre cette tarification saisonnière. D'après elle, la mesure entraînera une hausse de 13% de la facture d'eau cette année. L'opposition qui demande une étude plus poussée sur le sujet et un report de la mesure à début 2025. Mais pour Jean-Luc Moudenc, président de la métropole, l'enjeu ne se situe pas là.
Si on veut aller au fond du problème, c'est-à-dire si on veut inciter à des changements de comportement pendant la période estivale où il y a moins d'eau, on ne peut pas raisonner avec l'année calendaire.
850 000 personnes sont concernées par cette tarification saisonnière.
L'opposition propose plutôt une tarification progressive de l'eau. La métropole de Toulouse devra aussi payer des compensations financières à Veolia en cas de baisse de consommation d'eau.
Il est 7h06. Il demande l'ouverture urgente de négociations financières.
Les infirmiers libéraux dans la rue aujourd'hui, des centaines attendus à Paris, place de la Bastille à 11h. Eux qui n'ont pas été concernés par la revalorisation des soignants à l'hôpital. Le tarif de base des soins infirmiers, 3,15€, n'a pas bougé depuis 2009, précision dans une demi-heure. Voilà maintenant l'histoire industrielle d'une alliance entre un constructeur automobile, un fabricant de gros camions et un armateur qui a fait fortune. Renault et Volvo ont présenté hier leur projet de Tesla des utilitaires, comprendre un projet de fourgonnettes électriques pour séduire les géants du commerce en ligne et de la logistique. Elles seront produites dans les ateliers de la marque aux Losanges à Sandouville, Maxime Debs.
Renault, CMA CGM et Volvo sont sur un même bateau et en capitaine d'industrie, c'est le patron de Renault qui prend la barre, Luca De Meo.
On présente une initiative ensemble qui tourne autour d'un produit révolutionnaire qui amènera, je pense, à complètement transformer le segment des véhicules utilitaires pour les livraisons de last mile, comme on appelle.
Le last mile, ou plutôt le dernier kilomètre en français, lorsqu'un objet arrive au bout du monde et déchargé au port de Dunkerque ou du Havre, il faut l'acheminer, le livrer jusqu'à l'adresse indiqué. C'est là que les nouveaux fourgons siglés Renault intéressent l'armateur Rodolphe Saadé.
L'objectif, c'est de développer un concept innovant de voiture utilitaire électrique.
CMA CGM qui va investir 120 millions d'euros, car investir peut rapporter, mais aussi permettre de verdir son bilan carbone quand on sait la mauvaise presse qui souvent accompagne les gros cargos en matière d'écologie.
Rodolphe l'a dit, une partie des véhicules, au début, c'était quoi, 1500, tu as dit ? Ils vont directement partir dans son entreprise parce qu'il est actionnaire. Mais on a déjà fait beaucoup de travail en amont avec les opérateurs de la poste, etc., pour qu'ils nous disent comment il faut qu'on fasse le produit. Donc à un moment donné, je pense qu'il y a une chance qu'on va leur vendre la voiture.
Aujourd'hui, les camionnettes sont encore peu électrifiées, à peine un peu plus de 7% du parc européen, loin des objectifs zéro émission fixés à 100% pour 2035.
Verdict attendu aujourd'hui dans le procès de l'attentat de Strasbourg. Après 5 semaines d'audience, les 4 accusés s'expriment une dernière fois ce matin. Ils sont soupçonnés d'avoir aidé le djihadiste Chérif Chekat, qui avait tué 5 personnes, blessé 11 autres au marché de Noël, avant d'être abattu par la police après 2 jours de traque. C'est l'un des 2 bâtiments construits spécifiquement pour les JO de Paris, avec l'aréna Porte de la Chapelle. L'inauguration dans la matinée du Centre Aquatique Olympique à Saint-Denis, en présence du président de la République, qui vante une prouesse architecturale et écologique. Les 5000 places assises sont en plastique 100% recyclé, qui provient, et c'est une réelle innovation, des poubelles jaunes des habitants de Seine-Saint-Denis. C'est le projet d'une start-up, Le Pavé, spécialisée dans le recyclage du plastique pour le bâtiment, un concept complètement nouveau dans le domaine du BTP. Rémi Brancato, vous avez visité son usine à Aubervilliers.
C'est une petite usine, 1000 mètres carrés et des machines qui tournent à plein régime sous l'œil de Marius Hamelot, 29 ans, jeune président de la société Le Pavé.
On entend le ventilateur qui permet d'acheminer la matière dans les silos.
La matière, c'est un déchet plastique broyé, chauffé, compressé, explique Tanguy Cortier, le directeur de la production.
Il y a tout un procédé de fabrication qui nous permet de sortir des panneaux d'1m40 par 1m400 par semaine.
Un panneau qui s'utilise comme du bois et qu'on retrouve à l'aréna de la Porte de la Chapelle et au Centre Aquatique Olympique, nous montre Marius Hamelot.
Ça, c'est des bouteilles de shampoing qui ont été broyées. Cette matière qui a permis de réaliser la base des sièges qu'on voit également ici.
Ça, c'est le siège sur lequel on va s'asseoir à la piscine olympique.
C'est un siège rabattable avec une assise et un dossier.
11 000 ont été produits, un contrat qui prouve que le projet est viable à grande échelle pour l'entreprise.
11 000 sièges, c'est 100 tonnes de plastique recyclé. Sur ces 100 tonnes, il y a 80 tonnes qui proviennent directement de la poubelle jaune des habitants du 93. C'est la preuve qu'on peut faire de l'ultra-local et circulaire. Et maintenant, on souhaite porter cette initiative à beaucoup plus grosse échelle.
Le Pavé espère atteindre 100 000 tonnes de production par an. Avec d'autres projets, le recyclage recyclage des moquettes pour remplacer la pierre ou encore des semelles de chaussures pour les revêtements de sol.
Et on précise que le centre aquatique olympique inauguré aujourd'hui accueillera les épreuves de natation synchronisée, de plongeon et les qualifications du waterpolo. La natation, ce sera à l'Arena La Défense à Nanterre.
Il est 7h10, une belle cacophonie ce matin, Anaïs, après un coup de fil franco-russe.
Oui, échange téléphonique hier entre les deux ministres des armées, Sébastien Lecornu et Sergueï Shoigu. Paris avait sollicité cet entretien pour parler contre-terrorisme après l'attentat de Moscou et ses 144 morts. Échange franco-russe inédit à ce niveau-là depuis 18 mois. On sait que les deux pays ne se parlent plus. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Anaïs.
Vous êtes notre correspondant permanent en Russie. Le coup de fil a toutefois montré que Paris et Moscou ne sont d'accord sur rien, ni même sur la teneur de leurs échanges.
Oui, il y a des coups de fil qui actent une reprise du dialogue et d'autres qui, au contraire, soulignent l'étendue des divergences et on est manifestement dans le deuxième cas de figure. Le seul point qui soit à peu près partagé, c'est que c'est Paris qui a sollicité cette conversation, vous l'avez dit, pour parler de la lutte antiterroriste après l'attentat du Crocus. Sébastien Lecornu a expliqué à son homologue que la France n'avait aucune information permettant d'établir un lien entre cet attentat et l'Ukraine, comme Moscou l'affirme. Réponse de Sergueï Shoigu: j'espère que les services secrets français ne sont pas derrière cela, vu que Kiev ne fait rien sans l'aval de ses superviseurs occidentaux. Moscou persiste donc à écarter la piste islamiste, malgré les revendications de Daesh. Et de fait, tout dialogue reste impossible. Sergueï Shoigu a même affirmé après coup que les deux ministres s'étaient dit prêts à dialoguer sur le conflit en Ukraine, propos immédiatement démenti par Paris, et qui ressemble plus à une manœuvre du côté russe visant à démontrer que c'est la France qui, par son soutien à l'Ukraine, alimente la guerre. Bref, on échange, mais rien ne change.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou, l'Ukraine, où des frappes russes sur Kharkiv, la deuxième ville du pays, ont fait cette nuit 4 morts. Les bombes sont tombées sur un quartier densément peuplé. Comment rendre les questions européennes et les institutions passionnantes alors qu'on vote en juin? Le dessinateur Coco Pello publie une BD qui plonge dans les arcanes de Bruxelles pour nous faire comprendre comment fonctionne la machine et quels sont les enjeux. Album indispensable, Amélie Perrier.
Le sujet souvent rebute. Alors quand Coco Pello a proposé l'idée à son éditeur, il n'y a pas eu au départ un enthousiasme débordant.
Ça a été fait attention parce que tous les bouquins sur l'Europe jusqu'ici se sont plantés. Et si tu fais un bouquin sur l'Europe, fais un bouquin eurosceptique. Ce que je ne voulais pas faire, je voulais ni tomber dans l'euro-béatitude, ni tomber dans l'euroscepticisme.
Coco Pello avait déjà montré ses talents de pédagogue des institutions dans Palais Bourbon, sur l'Assemblée nationale, et quand il avait participé au carnet de campagne lors de la dernière présidentielle. Ici, il assume une nouvelle fois un regard naïf et vierge.
Avant de commencer cet album, je ne connaissais rien à l'Union européenne, j'ai pas fait d'études du sens politique, je ne suis pas journaliste. Je voulais y aller avec un regard neuf et je voulais aller le plus loin possible, percer tous les secrets de Bruxelles, mais avec un regard de citoyen, tout simplement.
Et le dessinateur va se heurter à de nombreuses portes closes, d'où l'enjeu des prochaines élections européennes en juin.
L'influence française à Bruxelles se joue là. On va parler changement climatique, on va parler énergie, on va parler renouvelable, on va parler migration, et pour aborder tous ces sujets-là, on va avoir besoin, évidemment, de la parole de la France, mais il ne faut pas oublier les citoyens français qui sont derrière.
La Tour de Babel, c'est un très bon passeport pour ce que l'auteur appelle lui-même, en sous-titre, le grand bazar européen.
Avec l'hymne à la joie, bien sûr, la Tour de Babel, coédité par Dargo et Le Seuil. Coco Pello est l'invité d'Un jour dans le monde ce soir à 18h. Enfin, Kylian Mbappé envoie le PSG en finale de la Coupe de France de football, auteur du but face à Rennes hier soir. Le PSG retrouvera Lyon en finale le 25 mai à Lille.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le zoom et une parole rare ce matin, celle de déserteurs russes qui ont quitté leur pays pour ne pas partir à la guerre.